10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Il se dit qu'il a le blues et il n'est pas le seul à droite. Comme d'autres, il a vu sa famille échouer aux deux dernières présidentielles. Comme d'autres, entre deux élections, il a assisté aux guerres des chefs, aux primaires dévastatrices. Comme d'autres, il a vu ses électeurs attirés d'abord par les sirènes du Front National, séduits ensuite par un président venu d'ailleurs, mais qu'il croit capable de mener à bien des réformes qu'ils attendent. Comme d'autres, il a subi le rétrécissement de son parti et constaté que l'étau s'était refermé, 8,5% des voix aux dernières élections européennes. Nouvelle crise, nouveau départ et tout est à refaire chez les Républicains. Un chef, un projet, une ligne, il y a de quoi avoir le blues. Bonjour Éric Woerth.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, très bien.
Heureux d'être là avec nous ce matin.
Je suis ravi.
Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes député Les Républicains de l'Oise, vous êtes président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Nous allons évidemment parler avec vous de votre famille politique, de l'avenir que vous lui voyez, des réformes aussi lancées cette semaine encore par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et vous allez nous dire la façon dont les Républicains appréhendent ces réformes. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Damien Fleurot, chef du service politique de CNews. Avant de lui donner la parole, une petite question d'actualité chaude. Éric Woerth, la France entre dans une semaine de canicule d'ici quelques jours, dès mardi, 40 degrés sur tout le territoire. Est-ce que ce n'est pas le moment où vous vous dites, ça fait un petit moment maintenant que vous faites de la politique, que votre génération finalement a manqué ce rendez-vous, celui de la prévention, de la limitation du réchauffement climatique ?
Bon, moi, je ne raisonne pas par génération. Tout le monde a le droit d'être sur la planète, qu'on soit jeune, qu'on soit plus ancien. Et je pense que c'est très bien. Après, il y a des responsabilités générationnelles, sans doute. Mais je note quand même que la préoccupation aujourd'hui fondamentale est totalement partagée sur le réchauffement climatique. Est une préoccupation qui est peut-être le fait que les générations d'aujourd'hui ou les plus jeunes en soient totalement convaincues. C'est peut-être que ça a été préparé par nos propres générations.
Mais pas suffisamment.
Non, sans doute pas suffisamment, mais la prise de conscience, elle est très lente sur ce type de sujet, un peu comme le climat. J'excuse personne, enfin, je ne suis pas en train de montrer du doigt soit des responsables, soit des héros du sujet. Il y a des gens qui ont porté ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. Les prises de conscience sur les phénomènes de fond, sur les phénomènes structurants, sur les phénomènes de très très long terme, sont des prises de conscience qui prennent toujours un peu de temps. Et je crois que moi j'ai 63 ans, ma génération, elle a également porté, je pense, cette idée-là et transmis à d'autres générations le fait de la porter encore plus loin. Alors certes, il est tard, c'est difficile. Ce phénomène aujourd'hui de réchauffement, il est partagé par tous, sauf à part quelques sceptiques, mais les sceptiques existent pour toutes les vérités. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans nos pays européens, on s'en rend compte. La vraie question, c'est les autres pays, c'est les autres, c'est les Chinois, c'est les Américains, c'est tous ces pays qui aujourd'hui en parlent, mais agissent très peu. Et la planète, vous avez remarqué, elle est une. Et elle n'a pas de pays, elle est seule, elle est unique. Et il faut vraiment que l'ONU s'en saisisse encore plus. Alors, a déjà joué un rôle important, donc c'est vraiment un problème mondial. Et de cette question, d'ailleurs, peut-être des actions collectives desquelles peuvent naître un bien supérieur.
Alors on reviendra sur cette histoire de transition écologique. Vous nous direz peut-être si les Républicains vont s'attaquer à ce sujet, quelles propositions ils ont à faire. Question de Damien Fleurot. On commence par la politique.
Oui, et dans votre famille politique, passion, hein, c'est le titre du livre de souvenirs que Nicolas Sarkozy s'apprête à publier, 360 pages. Il raconte ses premiers pas au RPR jusqu'à la conquête du pouvoir en 2007. À en juger à la fois par le tirage et par le buzz, les réactions sur les réseaux sociaux notamment, cette sortie s'annonce comme un best-seller, un événement. Qui d'autre à droite que lui suscite autant d'intérêt encore aujourd'hui ? Éric Woerth.
Oh bah Nicolas Sarkozy suscite un intérêt, c'est évident. C'est quelqu'un d'assez, qui a une personnalité si forte, une capacité aussi d'attraction, et parfois de répulsion d'ailleurs, aussi forte, ce qui est en général le cas pour ce type de personnalité. Il a marqué beaucoup ces 20 dernières années en termes politiques. Son quinquennat, On parle toujours de revisiter. Vous savez, vous regardez les choses différemment. Son quinquennat aujourd'hui apparaît comme une réussite dans la crise qu'on a traversée, que beaucoup ont oublié. Maintenant, Nicolas Sarkozy décide d'écrire un nouveau livre. C'est pas le premier. Ils ont tous eu pas mal de succès. Moi, je le lirai avec grand plaisir.
Vous dites, il a cette capacité d'attraction. Il peut être un recours pour votre famille.
Mais je crois qu'il ne faut pas chercher quelqu'un pour l'instant. Parce que c'est, à force de vouloir chercher quelqu'un, ça devient une recherche absolument artificielle. C'est pas, on n'est pas, on n'est pas avec des chasseurs de tête. Hein. On n'est pas en train de se poser la question du meilleur CV. Je pense qu'on ne réussira, et la droite ne réussira à renaître, hein, ce qui n'est pas du tout gagné d'avance. Elle ne réussira à renaître que si, d'abord, elle a un socle d'idées qui lui-même a été rénové, qui a été reconstruit. Je crois à la politique par les idées, je crois à la politique par les convictions. Il y a des maires qui sont ici avec nous. Ce qui compte, c'est leur personnalité, évidemment, ils incarnent, mais c'est d'abord ce qu'ils proposent pour leurs concitoyens.
Mais la droite a toujours eu besoin d'un chef pour incarner, à un moment donné, un leadership idées.
Mais évidemment qu'il faut un chef. Bien sûr,
bien sûr
qu'il faut un chef en tout. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dirige. La question toujours, c'est la façon dont on dirige. C'est autre chose. Mais évidemment qu'il faut quelqu'un qui soit le référent, qui incarne quelque chose. Sinon, tout ça est très déshumanisé. Puis demain, il y aura une intelligence artificielle, des algorithmes, et puis il n'y aura plus du tout de gouvernement et encore moins de chef d'entreprise. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on veut quand même. Donc il faut un chef. Mais ce chef, on ne peut pas le décréter. Hein, on ne peut pas le trouver comme ça. Il y a beaucoup de talents à droite. Beaucoup. Mais encore plus que la division, moi je redoute la dispersion. Il y a aujourd'hui une très grande dispersion des talents. Chacun s'exprime, voilà, je suis là ce matin, d'autres s'expriment dans d'autres télé, radio ou journaux, mais ils s'expriment sans cohésion. Ils s'expriment sans exprimer une pensée collective. Et cette pensée collective, elle manque beaucoup. Elle existait à l'époque de Nicolas Sarkozy, au moment de cette conquête, notamment de 2007. Il exprime et nous exprimons une pensée collective très large. Droite et centre. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui? Est-ce qu'au fond, c'est le bon chemin? Est-ce que les Républicains doivent encore incarner la droite et le centre? Certains disent non. Il faut camper sur une vision extrêmement droitière. Le centre, c'est fini. Il est maintenant parti chez le président de la République et chez En Marche. Moi, je ne le crois pas. On peut se poser ce type de questions. Je ne le crois pas. Je pense qu'il existe un formidable lieu qui s'appelle la droite et le centre, un lieu politique qu'il faut maintenant recréer. Et ça veut dire qu'il faut passer par les idées, il faut passer par le travail, il faut passer par l'addition des talents et pas par la soustraction de chacun de ces talents conduisant à l'individualisme.
Juste, s'agissant de Nicolas Sarkozy, pour clore le chapitre rapidement, on a appris cette semaine qu'il serait jugé pour corruption, il y aura peut-être aussi d'autres procès. Est-ce que pour vous, cette pression judiciaire, ça le met hors jeu pour jouer un rôle politique plus tard ?
Non, je ne le crois pas, et je ne le crois pas maintenant. Voilà, c'est un sujet extrêmement douloureux pour lui, et je pense d'abord à ça, pour tout vous dire. D'abord à ça. Il s'est énormément battu sur tous ces points-là. Je ne ferai pas de commentaires sur le fond, mais je pense que c'est extrêmement difficile à vivre, hein, je le sais, donc c'est extrêmement difficile à vivre, et ça n'enlève rien, je pense à ça, son envie. Il suffit de parler avec lui, il a envie, c'est quelqu'un qui aime vivre, son envie de vivre, son envie de vivre et de vivre pleinement, et
de vivre pleinement ses passions.
Non, j'ai pas dit ça, bien sûr que j'ai pas dit ça, c'est à lui de le dire à un moment donné, mais je ne crois pas. Je pense qu'en politique, il faut toujours laisser les choses ouvertes, comme dans la vie, il ne faut pas fermer les choses, il faut être capable de construire des parcours, et puis à l'intérieur de ces parcours, il y a une grande part de hasard, et saisir sa chance à un moment donné.
Il y aura sans doute un deuxième livre.
Il y a eu des livres à tout moment. Est-ce qu'il a tourné une page? Est-ce qu'au contraire, il ouvre une nouvelle page? Personne ne peut le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de talents et que la droite, elle n'est pas morte. Elle peut se disperser, elle peut se dissoudre, mais elle n'est aujourd'hui pas morte parce que les idées de droite et la cohérence des idées de droite ne sont pas mortes.
Et moi, vous dites la droite n'est pas morte. Pour l'instant, il y a un seul candidat donc, pour prendre la relève de Laurent Wauquiez qui a quitté la présidence du parti après la défaite aux européennes. C'est Christian Jacob. Vous-même avez renoncé à être candidat pour éviter, semble-t-il, la guerre des chefs. Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, a également renoncé. Jean-François Copé, un ancien dirigeant de l'UMP à l'époque, dit ce matin dans le JDD que Christian Jacob, il est formidable, mais ce n'est pas un leader. C'est pour ça que c'est le meilleur candidat ?
Moi, j'étais contre cette élection. Pour une fois, je suis contre une élection. C'est pas très populaire, mais pourtant, je suis contre une élection parce que on n'était pas obligé de le faire. On n'était pas obligé de la faire. Je pense que la question, elle ne se posait pas de savoir s'il n'y avait plus de président.
Ouais.
Je pense que ce n'est pas parce que tout d'un coup, un président Laurent Wauquiez avait démissionné qu'il fallait absolument se précipiter. Parce que là, on se précipite. Hein.
Bah, ce sont les statuts du parti.
Oui, bah, on va mourir en bonne santé statutaire. Ah, bah, la belle affaire. La belle affaire. Il suffisait d'interroger nos militants. Hein. Ce n'était pas très compliqué. Mais on n'a pas voulu. Je pense que réellement, on n'a pas voulu. Enfin, moi, je voulais, mais bah, le bureau politique ne l'a pas souhaité. Le président par intérim, qui est un ami, qui est un type tout à fait formidable, mais enfin, il n'a pas voulu.
Jean-Léonetti.
Oui, il s'y est opposé, personnellement, il s'y est opposé. Pourquoi ? À cause des statuts. C'est une façon rigide de voir la politique. On a un droit, c'est le droit interne, c'est
qu'est-ce
nos
qui
statuts.
Vous fait peur dans cette élection ? Qu'est-ce qui vous fait peur,
mais
Eric,
tout,
dans cette élection ?
Tout me fait peur. Tout me fait peur. J'ai pas le blues, hein, contrairement à ce que c'est très joli, le blues comme musique, mais je suis pas du tout atteint par le syndrome du blues. Je suis plus en colère qu'autre chose, au fond. On aurait pu profiter, entre guillemets, du départ de Laurent Wauquiez, de ce résultat tout à fait catastrophique aux élections européennes et du passé, sur les élections présidentielles et la primaire, on aurait pu en profiter pour inventer un autre modèle de gouvernement des Républicains. Et nos militants sur le terrain, ils pensent ça. Ils ne pensent pas qu'il faut absolument, pour résoudre la crise des Républicains, procéder à une élection. L'élection doit venir, aurait pu venir plus tard. Nous aurions pu demander aux militants, puisque c'est à eux, c'est eux qui sont membres, c'est une association. On aurait pu demander aux militants par voie électronique s'ils étaient d'accord pour repousser
pour
les
attendre
élections
et s'occuper
et
d'abord
modifier,
des municipales, éventuellement.
Nos statuts pour que, évidemment, ils soient en ordre. Et on aurait pu créer un collectif, c'est un joli mot. Au fond, on parle tout le temps du collectif en sport. Si vous mettez que des individus dans des très très bons joueurs dans une équipe de foot pas coachée, ça donne en général une catastrophe. Des joueurs moyens ou de bons joueurs coachés, ça va jusqu'au bout. On aurait pu avoir ce collectif.
C'est un peu ce que fait Gérard Larcher, le président du Sénat, quand il s'allie avec Xavier Bertrand avec ses conventions régionales, par exemple.
Gérard Larcher, il fait des choses. C'est à la fois ça et pas ça. À la fois, il joue, je pense, il tente en tout cas de faire revenir, et en tout cas de parler avec celles et ceux qui sont partis ou qui sont éloignés des Républicains. Et il construit aussi une approche par le biais des territoires. On appelle ça des territoires maintenant. Il y a un sénateur, Jérôme Bascher, qui est ici, il en parlerait mieux que moi. Mais les territoires, c'est évidemment le lieu de reconnaissance, notamment du Sénat, puisqu'ils sont élus par les élus locaux. Et cette armature, elle existe. Elle est très forte. Vouloir mieux déconcentrer pour l'État et mieux décentraliser pour les collectivités locales les compétences et les rapprocher de nos citoyens. On veut des circuits courts. Inventons dans le domaine de l'alimentation, par exemple, inventons des circuits courts dans le domaine politique. Les circuits courts dans le domaine politique, c'est de rapprocher l'électeur, le citoyen, le contribuable de la prise de décision. Ça ne peut se faire que dans les collectivités locales. Et Gérard le fait très bien. Il pense aussi, à juste titre, que peut-être que les Républicains ne sont pas assez forts eux-mêmes pour représenter la droite et le centre. Donc il faut élargir les choses, forme de confédération. Mais pour correctement élargir les choses, il faut un navire amiral qui peut être les Républicains suffisamment fort. Et nous aurions pu installer une collégialité forte avec Valérie Pécresse.
Avec tout le
plutôt
monde.
Que de la laisser partir.
Eric
avec
Wirth.
Valérie Pécresse, avec Gérard Larcher, avec Bruno Retailleau, avec Christian Jacob.
Il y aura tout le
et
monde
bien d'autres.
Et il y aura donc Christian Jacob, a priori président des Républicains. Écoute, dans quelques semaines. On y revient dans un instant, je vous coupe. Eric Wirth, président de la Commission des Finances et député LR de l'Oise, est notre invité. On se retrouve tout de suite.
10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Eric Wirth, député Les Républicains de l'Oise, est l'invité du Grand Rendez-vous. Une question de Nicolas Barré.
Et donc, on va reparler de votre ligne politique. Et je vous cite un exemple qui, dans le domaine économique, cette semaine, le député LR Gilles Carrez, votre prédécesseur d'ailleurs à la présidence de la Commission des Finances à l'Assemblée, s'est affiché en meeting avec des députés socialistes, communistes et insoumis pour s'opposer à la privatisation d'ADP, l'aéroport de Paris. Vous comprenez que vos électeurs puissent être parfois un peu troublés par ce genre de posture ?
Oui, je comprends très bien. Moi, je lis souvent que je suis libéral. Je ne suis pas plus libéral qu'autre chose. D'abord, en France, c'est très mauvais. Ça veut dire que c'est quasiment une insulte de dire qu'on est libéral. Mmh. Moi, je suis gaulliste. Je pense à la liberté. Libéral, c'est un beau mot. Je pense à la liberté d'entreprendre, à la liberté de penser, à la liberté d'agir, dans un cadre juridique, avec de l'ordre et de l'autorité. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Donc, il n'y a pas une vision libérale ou une vision pas libérale des choses. Moi, j'ai une vision pragmatique des questions économiques. Et je pense que c'est une erreur d'avoir voulu amener cette question de la privatisation d'ADP. En réalité, c'est une concession, ce n'est pas une privatisation d'ADP au référendum. Parce que d'abord, il y a un texte qui a été voté. Alors, on peut le contester. Moi, je l'ai contesté. Je l'ai contesté en commission, je l'ai contesté devant, en séance publique, devant le ministre, Bruno Le Maire, pour dire que c'était une mauvaise idée. D'abord, parce que c'est un monopole, au même titre que la Française des Jeux, d'ailleurs, dont on ne parle jamais. C'est un monopole, donc on ne privatise pas un monopole comme
mais
on privatise
quoi,
le coup, reste.
Arrêtons ce combat contre cette concession, cette privatisation.
Il est parti. Moi, je n'ai pas signé la possibilité de recours au référendum. J'ai combattu cette idée. Je pense qu'on aurait pu privatiser d'autres choses, notamment des entreprises industrielles dans lesquelles l'État a trop de participation. Enfin bref, on pouvait commencer des privatisations autrement que par ADP. En plus, les raisons du gouvernement, elles sont hyper floues. On ne comprend rien.
Mais
ils veulent tirer 250
c'est
millions d'euros de dividendes pour financer les startups alors qu'ils ont déjà 250 millions d'euros de dividendes. Donc on ne comprend pas du tout l'objectif de tout cela.
Pardonnez-moi, c'est l'idée du référendum qui vous... Voilà,
oui,
parce que Gérard Larcher parle justement de détournement de démocratie représentative.
Il n'a pas tort, parce que le Parlement s'est exprimé. Moi, j'ai lutté contre cela, non pas contre l'idée de privatisation, mais sur le fond de ce dossier. À partir du moment où il y a un référendum, ça veut dire qu'il y a une simplification extrême, puisqu'on présente à l'ensemble d'une population un système de cette nature.
C'est la réforme de Sarkozy qui l'avait...
La réforme constitutionnelle, il fallait le faire pour ADP, hein, dans la Constitution. Quand on a un bon outil, on peut aussi mal l'utiliser. On peut avoir une pelle et décider de rien creuser du tout. Non, je pense que c'est une erreur. En plus, on est dans un moment où les Républicains, vous l'avez remarqué, sont à peu près inaudibles et où on ne comprend rien à ce qu'on veut. On ne comprend rien, les gens ne comprennent pas. Donc, on manque aussi de travail sur le fond et sur le... Tout ça, moi, j'en suis extrêmement lucide et je le dénonce depuis très longtemps. Donc, on a besoin d'avoir une cohérence, pas uniquement sur un sujet, mais sur beaucoup de sujets. Et sur ce sujet-là, on apparaît à peu près incohérent. C'est-à-dire qu'on est favorable aux privatisations, mais on demande un référendum contre les privatisations, en plus à s'affichant avec des courants politiques qui ne sont pas du tout les nôtres. S'afficher avec les Insoumis, est quand même à peu près 3 années-lumière qui nous séparent de ce que pensent les Insoumis sur l'avenir de la France et sur l'avenir de l'Europe. Et donc ça crée de la confusion. Et dans un pays qui est déjà assez confus, avec assez peu d'ailleurs de voix qui sont suivies, regardez le président de la République, il a certes fait un score à peu près correct aux élections européennes. Enfin, ce n'est pas un très gros score. Et ses opinions favorables sont assez faibles. Donc, on voit que personne n'émerge, au fond. Personne. Et c'est un vrai sujet.
Donc, vous regrettez ce manque de cohérence au sein de votre parti,
parce qu'il
n'y a pas besoin de ça aujourd'hui.
Comme c'est du manque de cohérence, ça crée de l'incohérence. Et qu'on n'en a honnêtement pas besoin, même si Gilles Carrez est quelqu'un d'extrêmement extrêmement sérieux, d'extrêmement solide. Mais que lui mène un combat là-dessus, parce qu'il a contesté les autoroutes à l'époque et qui pense qu'on est en train de répliquer ce modèle. Je ne remets pas en cause la légitimité personnelle de son combat, je remets en cause la légitimité politique.
Votre stratégie pour les municipales, Éric Woerth, votre candidat Christian Jacob affirme qu'il ne croit pas aux accords d'appareil nationaux, mais que chaque maire, je le cite, est libre de former son équipe avec des personnalités complémentaires. Ça veut dire quoi? Complémentaires jusqu'où? Jusqu'au Rassemblement National éventuellement?
Non mais honnêtement, je n'en sais rien. Enfin, il y a des maires ici, François Déhaye, Nicolas Moulas, Arnaud Dumontier, voilà, il y a 3 maires de terrain. Chacun, ils font comme je le faisais, comme le font tous les maires, leur liste comme ils le souhaitent. Ils
ne
demandent pas d'appartenance politique.
Avec
avec tous les concitoyens qu'ils considèrent comme capables de gérer un moment donné et d'adhérer à leur projet.
Il ne faut pas poser des limites, ça manque.
Mais on
n'a
jamais posé des limites. On n'a jamais posé aucune limite à la constitution d'une liste. On pouvait avoir des socialistes sur notre liste et être tête de liste républicain ou UMP ou RPR à une époque. Ce qui était très important et ce qui reste important, c'est le projet municipal. Comme ce qui est important pour le pays, c'est le projet national. Il n'y a plus de projet. Il n'y a que des crises. On vit des crises sans arrêt. La crise de la planète, la crise du chômage, la crise de tout. Le seul avenir qui est donné aujourd'hui à nos jeunes, c'est d'essayer d'éviter la prochaine crise. crise, on pourrait quand même avoir un peu plus d'ambition. Et donc je crois que sur la composition des listes, il y a une chose qu'il faut éviter, c'est la politisation. Et En Marche est en train de politiser les élections municipales d'une façon absolument anormale, notamment dans les grandes communes, mais aussi dans les petites et dans les moyennes.
Jean-Claude Gaudin qui dit qu'il est prêt à ce qu'il y ait une liste En Marche, Les Républicains pour sa succession. Vous trouvez ça cohérent, critiquable?
Je pense qu'il faut aussi éviter les confusions, là également. Et je pense que les gens, ils ne sont pas totalement dupes. Je ne crois pas qu'il faille faire des alliances avec En Marche et Les Républicains, en tout cas aucune alliance nationale. Que sur le plan local, dans telle ou telle commune, des citoyens...
C'est pas
Eh bien, il ne peut pas y avoir d'accords nationaux et d'accords locaux de
Nice,
cette nature,
exemple,
ni à Marseille,
Christian
ni à Nice.
Estrosi avec
je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, tout est dans tout. Et au fond, En Marche a résumé sa situation, sa position, très clairement, juste après les élections européennes. Ils ont tout à fait indiqué que là où ils ne pourraient pas prendre la tête de liste, là où ils n'auraient pas de candidat suffisamment crédible pour gagner, ils rentreraient dans des conseils municipaux, puis tel le coucou nichant dans le nid d'un autre.
Si on retrouve sur la liste à Nice de Christian Estrosi, si on retrouve des marcheurs, vous aurez un candidat? Vous souhaitez qu'Éric Ciotti candidate face à Christian Estrosi?
Mais Éric Ciotti, il est président de la commission d'investiture, à ma connaissance, donc il s'organisera lui-même. Nous verrons bien.
Il organisera son investiture, c'est vrai que ça va être pratique.
Il organisera son investiture, je n'ai aucun doute là-dessus.
Et vous le soutiendrez?
Mais moi, écoutez, j'ai passé l'âge. Ma génération a passé l'âge de soutenir tout et n'importe quoi à partir d'éléments de langage. Donc moi, je garderai évidemment ma propre liberté. Je pense que notre formation politique, elle doit d'abord, parce que ça, c'est une certitude. Au moins, il y a une certitude. Nous avons beaucoup d'élus locaux qui n'ont pas rendu leur carte. Les Républicains, qui sont encore fidèles aux valeurs de la droite
et
du centre.
Et vous ne craignez pas justement la fuite de ces gens-là?
Non, je ne le pense pas.
Soit vers le Rassemblement National, soit vers Emmanuel Macron.
C'est en partie d'ailleurs l'initiative de Gérard Larcher. Si on est capable de les rassurer en se disant on a remis de l'ordre dans la maison, on a recommencé à travailler.
Mais il y a urgence, Éric, votre aider à Paris, le nombre de maires qui quittent la famille
républicaine. Paris, on est nul depuis 15 ans.
Rachida Dati pourrait être une bonne candidate
la même
ligne politique.
Oui, Rachida pourrait être une bonne candidate. C'est une candidate au moins qui a une notoriété sur le plan national et qui ne manque pas d'énergie. Mais sans doute, il peut y en avoir d'autres. Mais enfin, ça fait 10 ou 15 ans. Regardez, le groupe LR à Paris n'existe pas ou très peu.
Je ne sais pas.
Certains sont partis
chez Emmanuel Macron récemment.
Où est la proposition, l'idée des Républicains et de la droite sur Paris? En fait, c'est ça la question. C'est pas uniquement de savoir si c'est un tel ou un tel. Moi, ça m'est d'ailleurs à peu près égal. Ce qui est important, c'est ce que nous pensons. Qu'est-ce que nous pensons de Paris? Aujourd'hui, Paris, c'est un désastre. C'est un désastre. On s'amuse à faire en sorte que nos citoyens vivent un enfer au quotidien. Il y a 6000 chantiers de toute nature, personne n'y comprend plus rien. On est en train d'imposer ces liberticides. Paris est sale, Paris est incapable de résoudre ses problèmes de circulation et décide de les accélérer. Comme ça, on aura le bonheur des gens contre leur propre gré. Bon, on avait quand même une capacité à montrer que Paris, ça pouvait être autre chose. Bon, pour l'instant, on n'y arrive pas. Peut-être qu'on va y arriver, mais ça fait longtemps qu'on n'y arrive pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'accord politique qui place un certain nombre de personnes organisées politiquement, je pense évidemment En Marche, organisées politiquement, venir s'intégrer à des listes pour tenter d'affaiblir après la gestion du maire qui sera élu. Ça, c'est juste totalement impossible.
Brigitte Macron se défend de faire de la politique. Elle a néanmoins multiplié les déplacements. Alors, c'était à Marseille, à Lyon cette semaine. Elle a également pris la parole pour défendre le président de la République, son époux. Vous trouvez quelque chose à redire à son rôle?
Écoutez, chaque première dame, comme on dit, c'est pas d'ailleurs une très belle expression, organise les choses comme elle le veut et comme elle le souhaite. Je pense quand même que Madame Macron, elle fait de la politique.
Elle fait de la politique.
Bah oui, c'est assez difficile de penser qu'elle n'en fait pas. D'ailleurs, vous me posez la question, c'est que vous le pensez assez fortement. Évidemment qu'elle fait de la politique. Après, elle n'est pas non plus contestable pour faire de la politique. C'est certes l'épouse du président de la République, mais enfin, les premières dames se sont toujours et souvent exprimées. Pas toutes, mais elles se sont exprimées. Moi, je n'y vois pas de... En réalité, ça m'est égal ce que fait En Marche ou ce que fait le président de la République. Après, on peut contester des réformes. Ce qui m'intéresse, c'est que ce que proposent les Républicains, comment nous, on répond aux véritables enjeux. Les Républicains, on a entendu personne parler des questions d'urgence, des questions d'immigration, de toutes les questions qui sont venues dans l'actualité il y a peu de temps, tout simplement parce qu'on a oublié qu'il fallait travailler sur le fond et qu'on travaillait trop sur les hommes ou sur les combats opposant telle ou telle personnalité. Mais personne ne demande, personne en dehors de ses personnalités elles-mêmes, personne au fond ne souhaite cela. La politique, c'est d'abord des idées, se creuser des idées. Et moi, je propose que les Républicains créent dans chaque métropole ou dans chaque région des laboratoires d'idées organisés, pour que puissent réémerger des idées sur l'ensemble du terrain. Et qu'après, ces idées deviennent des idées collectives. Pas, oui, enfin, interne, qu'on fasse notre grand débat, mais qu'on le fasse autrement, qu'on le fasse à partir du terrain, mais qu'on puisse faire remonter des grandes idées nationales, et pas évidemment des idées locales, à partir de laboratoires d'idées des Républicains installés dans chacune des régions. Beaucoup de nos militants ont beaucoup d'idées, et très sincèrement, le Centre National des Républicains n'en fait pas grand-chose. Donc on doit pouvoir
Essayer d'aborder quelques-unes des idées que vous pourriez proposer, notamment en réponse aux réformes du gouvernement. Éric Woerth, invité du Grand Rendez-vous, on se retrouve dans un instant.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Éric Woerth, président de la Commission des Finances et l'invité du Grand Rendez-vous. Éric Woerth, l'INSEE prévoit un taux de chômage à 8,3% de la population active à la fin de l'année, en diminution donc de 0,5 points en un an. Ce serait le plus bas niveau depuis la fin de l'année 2008. Finalement, la politique économique du président Emmanuel Macron, elle fonctionne ?
Non, mais il y a des éléments positifs dans cette politique, heureusement, et il faut absolument le reconnaître. Et d'ailleurs, nous votons pas mal de choses à l'Assemblée nationale, donc on n'est pas dans une opposition aveugle. Maintenant, qu'on se réjouisse que le chômage baisse, tant mieux, mais enfin, on est deux fois plus élevé en termes de chômage que la plupart des autres pays développés. C'est grosso modo 4% en moyenne dans des pays à peu près comparables à la France, on a deux fois plus de chômage. On n'est pas sorti du chômage de base, on n'en est pas sorti. Il y a aussi une raison à tout cela, en dehors de la croissance. Il y a une raison assez simple, c'est que qui est pas une bonne raison, qui est que le nombre, enfin c'est la baisse de la population,
la baisse démographique fait que,
oui, évidemment, facilite évidemment les choses, mais c'est surtout la croissance. C'est la croissance qui est une croissance qui a été largement importée. En réalité, François Hollande, il a retardé l'arrivée de la croissance en France. Il y a eu de la croissance sous François Hollande à la fin du quinquennat, assez forte. Elle aurait dû venir plus tôt. Pour un certain nombre de raisons, ça a été retardé. Donc ça a été retardé en France. Emmanuel Macron est arrivé avec une croissance forte dans le pays. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus faible. Elle est deux fois plus faible, grosso modo. Pas tout à fait, mais enfin, elle est beaucoup plus faible qu'elle ne l'était auparavant. Mais elle reste un peu légèrement au-dessus de la zone euro pour une raison assez simple, c'est qu'on est moins exposé, notamment au courant économique international. Et qu'on voit bien que le courant économique, le commerce international, compte tenu des risques géostratégiques, est en train de se ralentir. Donc comme on est moins exposé
à l'exportation, du coup.
Oui, mais c'était la même chose avec des grandes crises. La grande crise, ça touchait un peu moins la France parce qu'on a un moteur social qui avait tendance à faire le tampon ou l'amortisseur. Mais tant mieux. Et je vois simplement que tout n'est pas suffisamment fait pour aujourd'hui éradiquer le chômage durablement. Aujourd'hui, on a une baisse conjoncturelle du chômage. C'est pas suffisant.
Il y a cette réforme de l'assurance chômage qui vient d'être présentée, qui a pour but justement de contribuer à la baisse du chômage. Est-ce que vous soutenez l'idée globale de cette réforme qui, en gros, durcit les conditions d'accès au chômage, à l'indemnisation, et puis aussi qui impose une dégressivité pour les cadres à partir de 4 500 euros qui verront chuter leurs indemnisations s'ils restent au chômage.
Je suis assez globalement d'accord avec la réforme de l'assurance chômage. On avait écrit des choses à peu près comparables. C'est vrai aussi c'était vrai aussi dans le domaine du droit du travail, qui est une réforme que nous avons votée en juillet 2017. Il y a néanmoins un certain nombre de points qui sont plus discutables, comme toujours, à l'intérieur. Donc j'ai dit globalement.
C'est mais assez sévère pour les cadres, quand même.
Par exemple, pour les cadres. Ouais. Moi, je pense qu'il doit y avoir dégressivité. C'est pas populaire de dire ça, mais je l'assume. Il doit y avoir dégressivité parce que c'est l'intérêt général. Et cette dégressivité, c'est ou pour tout le monde ou pour personne. Il n'y a pas de raison particulière de viser un public de cadres. Alors on dit, le gouvernement dit, parce que les cadres, il n'y a pas de chômage. Il y a très peu de chômage parce que tout va bien et que les cadres, ils trouvent facilement un emploi. Donc il faut les pousser encore plus à trouver un emploi en rendant l'indemnité dégressive. Mais c'est vrai aussi pour les personnes non qualifiées. C'est vrai aussi pour les personnes non qualifiées. Alors, c'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est pourtant vrai. Les personnes non qualifiées aujourd'hui, il y a du boulot pour beaucoup de gens qui ne sont pas très qualifiés. On voit bien qu'il y a beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus. Demandez autour de vous, demandez dans des entreprises autour de vous, demandez chez des commerçants autour de vous. Il y a beaucoup de postes ouverts qui ne trouvent pas preneurs. Pourquoi ?
Pour plein de raisons.
Comment ?
Vous voulez dire qu'il suffit de traverser la rue ?
Non, ni la rue, ni l'avenue, il suffit juste de chercher et surtout de s'y maintenir.
Donc quand vous pensez que les gens qui aujourd'hui ne sont pas dans l'emploi, c'est parce qu'ils ne souhaitent pas être dans l'emploi ?
Je ne veux pas généraliser, parce qu'on généralise toujours les chômeurs. Non, il y a des personnes qui sont au chômage. Et après, ils ont des comportements différents. Et je pense que la dégressivité pousse à rechercher et à trouver du chômage, de l'emploi. Et d'ailleurs, Pôle emploi n'a fait que le dire. Dans toutes leurs statistiques, on voit très très bien que c'est en fin de parcours qu'en réalité, la personne revient souvent dans l'emploi. Donc, il est faux de faire une différence entre le public de cadre et le public des non qualifiés. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas cadre et peut être très très qualifié. Mais je parle notamment au chômage des non qualifiés. Aujourd'hui, il faut pousser les gens à accepter. Regardez dans les cuisines, regardez dans les restaurants, regardez partout.
Mais sont aussi, vous le savez, des jobs qui sont mal payés.
Regardez dans les petites entreprises.
Justement.
Moins payés que quoi ? Non, ils sont très bien payés. Enfin, ils sont payés à un SMIC. La France est un pays très très solidaire.
La question des salaires, justement, Éric Woerth. Guillaume Pelletier, le vice-président des Républicains, surenchérit sur cette question de la baisse des allocations chômage. Lui, il veut une hausse générale des salaires financés notamment par une baisse des cotisations des entreprises. Est-ce que c'est une proposition que vous jugez sérieuse ou totalement démagogique ?
Non, mais c'est des propositions comme ça, il y en a tous les jours. C'est pas, bah, c'est
quand
pas...
elles viennent du vice-président des Républicains,
l'équipe elle n'existe plus. On a changé de président, il n'y a plus d'équipe dirigeante. Moi je pense que, évidemment qu'il faut augmenter les salaires. Évidemment que la solution de l'augmentation du pouvoir d'achat pour les actifs, c'est l'augmentation de la rémunération, c'est l'augmentation de l'activité. C'est pas par des prestations sociales. Mais encore faut-il pouvoir les financer.
Et comment ?
Encore faut-il pouvoir les financer par l'activité, par la croissance, par la compétitivité des entreprises, par l'augmentation des marges des entreprises, et pas autrement. Vous pouvez toujours augmenter le salaire en tentant de baisser les charges sociales. On fait ça depuis 15 ans, donc c'est bon, on peut toujours poursuivre ça. Sauf que les charges sociales, ou les cotisations sociales, comme on dit, elles financent un système social. Elle finance le moteur social. Le moteur social, impôts, cotisations, tout compris, partout, c'est plus de 700 milliards d'euros. Ce moteur social, il faut le réformer.
Donc moi, vous dites à Guillaume Pelletier de revoir un peu sa copie et de travailler plus sérieusement.
J'attends avec impatience des propositions de réduction de ce modèle social. C'est comment on essaie de faire, comment on précise mieux la frontière, en réalité, entre la solidarité collective et la responsabilité individuelle. C'est tout le débat, notamment de la dégressivité. De l'indemnisation du chômage. Moi, je crois qu'il faut que la dégressivité, elle vaille pour tout le monde, elle doit valoir pour tout le monde. Il n'y a pas de raison de viser uniquement les cadres. Évidemment que non.
Sur la réforme des retraites qui finit par avancer, Édouard Philippe a parlé dans sa déclaration de politique générale d'un âge d'équilibre. Agnès Buzyn, qui est à votre place la semaine dernière, a confirmé que ce nouvel âge pivot serait fixé à 64 ans. Alors, ce n'est pas une remise en cause de l'âge légal, mais à la fin, ça revient quand même au même. Il faudra travailler a priori jusqu'à 64 ans pour avoir sa retraite pleine. Au-delà des mots, est-ce que là aussi vous soutenez globalement cette réforme des retraites ?
Là, je ne peux pas soutenir une réforme qui n'existe pas. Ça fait 2 ans que le gouvernement travaille là-dessus. Et aucun gouvernement n'a travaillé aussi lentement sur un tel sujet.
Mais personne n'est allé jusqu'au bout non plus, aucun gouvernement.
Oui, enfin, vous êtes gentil, mais vous avez la mémoire courte. On a fait beaucoup de choses sur les retraites. Seule la droite a fait des réformes de retraite qui ont permis notamment d'équilibrer notre système de retraite. Enfin, la base de la base, c'est d'avoir un système financé. Parce que le jour où vous direz, ah ouais, c'est systémique, mais tu reçois plus ta retraite, vous verrez que
là,
le systémique,
il n'est pas financé
rien
tel qu'il est envisagé aujourd'hui.
Bien sûr que non. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de proposition en ce sens. Moi, j'attends. Je ne sais pas qui s'en occupe au gouvernement. Il y a Jean-Paul Delevoye,
il y a
au commissaire, il y a Agnès Buzyn. Donc, il y a une division des tâches. Je ne sais pas comment ça marche. En tout cas, je vois qu'on parle beaucoup, mais qu'on agit très peu. alors qu'il y a urgence à donner au moins un cap aux Français. C'est plus de 300 milliards d'euros le système de retraite. C'est considérable, c'est grosso modo un peu moins de la moitié de l'ensemble des... c'est quasiment le budget de l'État, donc c'est tout à fait considérable. Donc, et c'est un mode de vie. Il faut évidemment repousser l'âge de la retraite.
Mais là, c'est ce qui va être fait. 64 ans. 64 ans pour avoir une retraite pleine aujourd'hui.
Et alors vous avez choisi, aujourd'hui, c'est 62 ans pour avoir le droit de partir à la retraite. Si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous n'avez pas une retraite pleine. C'est pour ça que les gens, d'ailleurs, partent un peu plus tard.
Oui,
tout ça
moyenne,
existe.
Partent
vous changez 64. Les points par des trimestres. Tout ça existe. Ils changent juste les mots. Il y a une chose qui change aussi, c'est le courage. Il n'y a pas de courage. À partir du moment où il n'y a pas de courage, on n'ose pas indiquer qu'il faut juste prolonger l'âge de départ à la retraite. Et c'est très important parce que dans un système par répartition, les actifs, ceux qui travaillent, les actifs, ils payent la retraite de ceux qui sont à la retraite, ils payent les pensions. Donc, ils doivent donner une autorisation de partir et pas uniquement un bonus ou malus, parce que ça, c'est un système de bonus-malus. Ce système de bonus-malus, il existe aujourd'hui en France à partir de 62 ans. Et puis, vous avez une retraite à taux plein, 5 ans après, 67 ans, si vous n'avez pas tous vos trimestres. Et encore elle reste prorata temporis, c'est juste que vous n'avez pas de malus. Là, on a un âge pivot, personne n'y comprend rien. Ça veut dire qu'on va vous dire, tu peux partir à 62 ans, mais attention, tu vas être sacrément puni parce que tu auras une toute petite retraite. Beaucoup de gens partiront, in fine, parce qu'ils en ont marre, parce que l'horizon de la société aura été 62 ans. L'horizon, alors que cet horizon qui fait que les entreprises s'adaptent au travail pour longtemps, avec des seniors, qu'il y ait des seniors au travail, c'est adapter les modalités du travail, les conditions de travail. Cet horizon, on ne l'aura pas déplacé. Moi, je suis le ministre qui a bougé les retraites à 62 ans. On a cassé, au fond, le mythe des 60 ans. C'est des millions de gens dans la rue. Ça a été des millions de gens dans la rue. Aujourd'hui, qui conteste cela? Donc, on ne peut pas... la retraite, c'est la vie. Donc, tous les 10 ans, tous les 15 ans, et on devrait le faire d'ailleurs non politiquement. Ça devrait être des décisions prises quasiment techniquement, par notamment l'augmentation de l'espérance de vie par génération, changer cet âge de la retraite. Clairement,
donc vous dites,
c'est pas clair.
Manque de courage aujourd'hui
clair.
De la part du gouvernement.
C'est un manque de courage total. Ce n'est pas clair. Comme le reste d'ailleurs ne l'est pas clair, la capacité de donner des points, la valeur du point, tout ça n'est pas clair et c'est bien regrettable. Et moi je crois qu'il y a en réalité, une bonne réforme, une bonne poursuite de la réforme des retraites, parce qu'entre nous, il y a eu un chemin énorme. Le gouvernement, il prend pas une table rase, il prend à partir d'un point très élevé déjà de réforme. À partir de là, il fallait augmenter l'âge de la retraite, clairement, sur quelques années, par exemple jusqu'à 65 ans pour le taux plein, en le faisant bouger. Passer un système par points, là, j'y suis assez favorable. C'est d'ailleurs dans la loi de 2010, avec un rendez-vous qui a été raté par le président Hollande. Mais à côté de cela, mettre en place un grand régime de capitalisation publique. Parce qu'il faut à un moment donné mettre en accord les actes et les mots. Les gens disent j'ai travaillé, j'ai le droit à ma retraite. Non, vous n'avez pas le droit ou tu n'as pas le droit à ta retraite parce que ta retraite, c'est les générations d'actifs qui vont la payer. Toi, tu as payé en cotisant, tu as payé les retraites de tes parents. Donc, il faudrait à côté mettre en accord en disant si j'ai le droit, je paye, j'ai le droit. Bah, si tu as le droit, à ce moment-là, tu capitalises pour toi-même. Et beaucoup de gens n'ont pas d'assurance vie, n'ont pas les moyens, ils ne savent pas.
Donc, il y aurait un système de fonds de pension publique, quoi.
Il y aurait un système de répartition qui serait le système amiral et à côté, un système par capitalisation publique, ça pourrait être financé notamment à partir de la CRDS, si un jour les comptes sociaux reviennent à meilleure fortune. Ça pose des questions de comptabilité, mais on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, il pourrait y avoir un système où la CRDS que vous payez aujourd'hui pour contribuer au remboursement de la dette sociale
servirait à assurer
votre propre compte de capitalisation personnelle.
Éric Woerth, on se retrouve dans un instant pour la suite et fin du Grand Rendez-vous.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Éric Woerth, député Les Républicains de l'Oise et président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, est l'invité du Grand Rendez-vous. Une question de Damien Fleurot.
Oui, la loi de bioéthique arrivera en Conseil des ministres le 26 juillet avec le sujet de la PMA pour les couples de femmes. Quelle sera votre ligne sur ce point ?
Ma ligne personnelle ou la ligne de la formation
votre...
politique, je n'en sais rien. ma ligne personnelle, elle est... c'est compliqué. Et je pense que je suis plutôt opposé à la PMA. C'est pas très populaire non plus de le dire. Non pas que je.
C'est le retour de la droite Trocadéro, c'est
pas,
ce que dit le Premier ministre.
J'ai horreur de cette expression.
C'est ce
premier
ministre.
Ouais, bah, il en faisait partie, le Premier ministre. Il en faisait partie.
Ah, il était pas au Trocadéro.
Il était absolument. Bon, non, bon, enfin, il aurait pu y être. Il était contre la PMA. Il était contre la PMA. Donc, le Premier ministre, il est très gentil, mais enfin, je sais pas s'il est gentil d'ailleurs, mais enfin, il n'y a aucune raison de rendre sa parole crédible sur le sujet. On fait de la PMA et de la loi bioéthique un outil politique. C'est une très mauvaise chose. Quand je lis dans des journaux que le gouvernement dit c'est un bon coup, ça va diviser encore plus nos adversaires. Enfin, quelle idée ! On est en train de faire des conditions de vie.
C'était aussi une promesse de campagne,
société.
un droit qui avait été annoncé par le candidat Macron.
Pardon, j'ai une vision différente. Moi, je vois aujourd'hui qu'ils essayent d'en faire un outil de fracturation de leurs propres oppositions. Je pense que le droit à l'enfant ou le droit de l'enfant, c'est pas un outil de fracturation des oppositions conjoncturelles. C'est une manière assez médiocre d'aborder le sujet. Moi, je crois au bonheur des enfants, je crois au bonheur des familles, je crois aux familles. Je pense aussi qu'il y a une filiation naturelle. Je crois à la filiation. Je vois que le gouvernement propose des choses très, très complexes dans l'ouverture d'une troisième condition de filiation. Et je pense aussi que c'est un engrenage incroyable vers la gestation pour autrui. À partir du moment où c'est autorisé pour un couple de femmes, et je n'ai aucun doute qu'un enfant puisse être heureux élevé par un couple de femmes, un couple homosexuel ou hétérosexuel, la question n'est pas là. La question, c'est la question de la filiation, du droit aux origines. Et la GPA, c'est juste pas possible parce qu'on en vient à une vision commerciale, quasiment commerciale. La marchandisation, dit-on, des corps, et c'est la vérité. Donc ça, c'est juste une ligne rouge. Et une fois que vous êtes à la PMA, bah, l'étape d'après, c'est la GPA. Donc on voit bien qu'on a toujours franchi les étapes d'après.
On verra si votre parti se mobilise à nouveau sur cette question sociétale. Mais à votre avis, quelle doit être justement la force mobilisatrice aujourd'hui, la ligne des Républicains?
Notre formation politique, elle doit parler à tous ceux qui ont quitté cette formation politique. On était une grande formation politique et on doit être une force d'alternance, une force crédible.
Et Christian Jacob peut parler à tout le monde?
Écoutez, il veut être candidat, c'est celui qui en a le plus envie. Moi, j'avais indiqué que je ne le ferais pas. Je ne serais pas candidat s'il l'était, pour une raison assez simple, et Bruno Retailleau a pensé exactement la même chose, ça fracturerait définitivement notre formation politique à partir du moment où il y a des candidatures, trop de candidatures et des candidatures un peu de poids lourd, comme on dit. Et c'est évidemment fracturé quand on fait 8%. C'est un énorme sujet. Quand on en fait 25%, c'est pas le cas. D'où le problème de l'élection, d'ailleurs, parce que c'est où il y a des candidatures quasiment uniques, où il y a des candidatures trop dispersées. Et dans les deux cas, c'est une mauvaise chose. C'est pour ça qu'il fallait pas d'élection. Moi, je crois qu'on doit absolument rebondir sur des sujets majeurs. Je pense à l'égalité des chances. Aujourd'hui, l'égalité des chances, c'est quelque chose dont on parle comme ça, mais en réalité, qu'on ne fait plus. L'ascenseur social, comme on dit, il est assez bloqué. Il y aura toujours des inégalités de revenus dans notre pays. C'est la crise des gilets jaunes. Si on veut considérer, si on peut, pour tolérer les inégalités de revenus qui sont propres à toutes les sociétés, il faut évidemment croire en l'égalité des chances, c'est-à-dire à sa capacité de sortir à un moment donné de la classe sociale ou de la catégorie sociale ou de la catégorie de revenus dans laquelle vous êtes. C'est la seule manière de faire.
Donc c'est
il faut
ça qui doit aujourd'hui emporter la réflexion chez les
évidemment.
Républicains.
Et la peur du déclassement, elle ne doit pas l'emporter sur l'espoir d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller plus haut. Quand une société est tirée par cela, alors elle est gérée de façon absolument saine. C'est pour ça que je vous parlais de crise et de projet. On doit cesser de toujours voir le management public comme la gestion des crises, plutôt que comme la gestion des projets. Nous n'avons plus de projet national. Nous n'avons plus de projet européen. C'est pour ça que ces élections européennes, d'ailleurs,
justement,
ont été extrêmement faibles.
Et Nicolas Barré.
Éric Woerth, est-ce que nos vieux États-nations, finalement, sont menacés par les grandes puissances privées, les GAFA? Vous avez vu que Facebook va lancer sa propre monnaie. Ça vous inquiète?
Moi, je connais pas bien, mais je connais assez bien le problème des monnaies. Des crypto-monnaies ou des crypto-actifs, comme on dit aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait peur quand on parle de ça. Ça fait crypte, c'est pas terrible. Ça fait cave. Et moi, je suis très inquiet de l'évolution des GAFA, des Amazon, des Facebook. Je suis très, très inquiet. Parce que ça devient plus puissant que des États. Ça ressemble à des États. Ça a plus d'argent que beaucoup d'États. Ça a une capacité de se mobiliser mondialement considérable. Ça connaît à peu près tout sur vous et sur moi, d'ailleurs. On a des données qui virevoltent un peu partout. On les utilise un peu, mais ils les utilisent beaucoup. Les financements sont illimités. c'est extrêmement inquiétant. Et lorsqu'on veut créer une monnaie, alors on peut dire c'est une gentille monnaie, il y aura des réserves composées de paniers de monnaie nationale, etc., de dollars, d'euros. Donc c'est très différent du Bitcoin, par exemple. Ça utilisera la blockchain, c'est formidable la blockchain, plus personne ne sait qui valide les transactions. Bon, moi je crois aux banques centrales. C'est peut-être un vieux modèle, mais enfin, ça a le mérite d'exister. Je crois aux banques centrales.
Donc,
faudrait
mettre le haut, là,
et moi, je me pose la question du démantèlement des GAFA. Il y a des entreprises qu'on a démantelées.
Il y a du mal à les taxer.
Vous avez raison, mais bien sûr, mais moi j'ai soutenu l'idée d'une taxation au chiffre d'affaires. En tout cas, moi je crois réellement qu'il faut que le monde entier se pose cette question-là. C'est qu'on ne peut pas laisser se créer des États privés, une souveraineté privée. Mmh. On empêche Alstom et Siemens de fusionner parce qu'on se dit que ça va être terrible pour l'avenir économique de la planète que des locomotives soient... Bon. Là, on est en train de parler de notre vie à nous tous. On est en train de parler d'intelligence artificielle. On est en train de parler de monopole, en réalité, de l'avenir, de monopole de l'avenir et du progrès technologique réservé à ceux qui en ont les moyens, c'est-à-dire ces entreprises qui ont capitalisé énormément. Elles sont toutes ou chinoises ou américaines. Elles ne sont jamais européennes. Non, la question du démantèlement des GAFA, parce qu'on ne peut pas laisser se créer des États privés, doit se poser. Elle doit se poser, évidemment, au niveau mondial.
On termine par l'Europe, Eric Woerth. Emmanuel Macron a marqué un point lors du dernier sommet européen. Il a obtenu que la candidature de l'Allemand, qui était soutenue par Angela Merkel, soit finalement écartée. Du coup, il y a d'autres candidats qui arrivent dans le jeu, dont peut-être Michel Barnier. Vous soutiendriez Michel Barnier, qui vient de votre parti pour prendre la présidence de la Commission européenne ?
C'est très compliqué, il faut y être. Je ne suis pas dans cette négociation, donc il faut la comprendre au millimètre près. Donc je me garderai bien de donner une opinion.
Mais
je peux donner une opinion. Je peux donner une opinion sur Michel Barnier. Ce serait un formidable candidat. C'est quelqu'un de tout à fait remarquable, qui s'est beaucoup exprimé et qui s'est beaucoup révélé d'ailleurs aussi dans cette crise existante du Brexit qui est épouvantable. Comme quoi, il y a une classe politique, parfois peut-être qui a encore plus de difficultés que la classe politique française, c'est la classe politique anglaise, avec des décisions qui sont des décisions qui vont contre le bon sens. Les décisions nationalistes de court terme sont des décisions qui s'opposent à l'intérêt général. Et c'est souvent le cas, et c'est là-dessus qu'on doit, évidemment, nous les Républicains, montrer qu'il y a une très très grande différence entre les populismes et M. Macron. Il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est évidemment la nôtre. Si nous rétablissons notre souveraineté financière, donc que les finances publiques soit pas un abandon en race campagne. Aujourd'hui, les finances publiques ont été abandonnées par le gouvernement et qui est une souveraineté d'ordre et d'autorité, c'est-à-dire une souveraineté militaire et une souveraineté monétaire.
Merci, Eric Woerth, d'avoir participé à ce grand rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours évidemment en partenariat avec CNews et Les Échos. Excellente semaine à tous.